Ciel FM.
Vous écoutez Bonjour Grand Portage avec Kevin Beaulé.
7h10, ce matin, j'ai l'occasion de jaser avec le PDG du CI3S du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho, qui est en ligne. Bon matin, M. Carvalho.
Bon matin.
Écoutez, on devait parler à la base de la situation dans les urgences au Bas-Saint-Laurent, mais disons que ce qui s'est passé du côté d'Amqui, ça change un peu la donne. On va revenir, bien sûr, sur la situation des urgences un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais tout d'abord, un mot sur ce qui s'est passé à Amqui à titre de PDG. C'est la première fois là, que vous devez gérer un événement aussi tragique, une telle crise. Comment vous avez réagi de un lorsque vous avez pris connaissance des événements? Puis à ce moment-là, j'imagine qu'il y a un processus, un protocole qui s'enclenche avec le CI3S, là.
Oui, effectivement. Bien évidemment, au début, quand on a ce genre de nouvelles-là, c'est toujours attristant. Puis nos pensées vont d'abord aux victimes, puis aux proches là, qui sont impliqués. Puis en même temps, vers nos équipes, parce que Amqui, ça reste comme dans bien d'autres endroits au Bas-Saint-Laurent, des milieux relativement petits, de telle sorte que les gens se connaissent. Donc, ça amène une certaine émotivité aussi, puis un défi, mais que les gens ont quand même bien relevé malgré tout. Je vous dirais que dans la foulée de ce genre d'événement-là, c'est un peu comme ce qui s'est produit à Saint-Fabien, là, un petit peu avant Noël, concernant le cas d'Orange, l'accident d'autobus. Là, c'est un peu la même chose. Le contexte, dans ce cas-ci, est un peu plus, je dirais, tragique parce que c'est un acte délibéré. Mais n'empêche que ce qui a été fait, c'est que les procédures de cas d'Orange, donc d'accident majeur avec plusieurs blessés, ont été enclenchées. Puis nos équipes, tant à l'urgence d'abord qu'ensuite au niveau du soutien psychosocial, on sont rapidement intervenus et sur le lieu de l'accident et à l'hôpital, pour être en mesure de donner des soins et des services le plus rapidement possible aux gens qui ont été touchés par ça.
Lorsqu'on se doit de transporter des gens hors région, comme ça a été le cas, par avion, est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui est impliqué? Est-ce que c'est à votre demande? Comment ça fonctionne?
En fait, ça part des équipes cliniques sur le terrain qui évaluent les usagers qui ont besoin de soins. Et là, quand il y a une décision de transfert, il commence à se faire des échanges entre ce qu'on appelle le système EVAC et les équipes d'expertise en traumatologie au Québec dans les centres de trauma, puis nos médecins et puis nos équipes cliniques dans les urgences concernées. Et là, ils conviennent du transfert ou pas. Puis vous savez, dépendamment si c'est un enfant, dépendamment si c'est quelqu'un qui a des besoins particuliers ou certaines maladies, s'ils ont besoin de sortir de la région, il faut les envoyer vers des centres d'expertise spécifiques. Puis il y a une entité qui s'appelle EVAC qui fait les évacuations aéroportées d'usagers au Québec qui affecte les avions. Puis ça peut être des avions ambulances ou de l'avion hôpital. Puis ces avions-là viennent chercher les usagers à ce moment-là. Souvent, dans l'Est, à l'aéroport de Mont-Joli, on amène les ambulances là-bas avec les usagers. Ils les prennent en charge puis ils les ramènent vers les centres qui sont ciblés là, pour accueillir des patients à ce moment-là.
En date de ce matin, à votre connaissance, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont été blessés dans l'événement d'Amqui qui sont traités présentement dans la région ou tout le monde est rendu dans des hôpitaux, que ce soit à Québec ou à Montréal?
En fait, les dernières nouvelles que j'avais eues, il y avait eu 6 personnes de transférer à l'extérieur de la région. Au total, on avait pris en charge une douzaine d'usagers, certains simplement pour choc nerveux, mais d'autres pour des blessures physiques. J'ai pas eu l'état de situation encore ce matin détaillé là, sur les ceux qui sont restés dans la région, mais hier, on me disait qu'ils étaient en voie de stabilisation.
Ouais.
Donc, on verra ce matin là, comment ils vont.
On a entendu code orange. Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas trop c'est quoi un code orange?
En fait, un code orange, nos codes d'urgence dans les établissements de santé viennent par couleur. Puis le code orange, c'est celui qui implique un accident avec plusieurs blessés. Souvent, ça arrive dans la communauté. Puis ce que ça permet de faire quand on utilise ces couleurs-là, c'est que ça donne une idée de l'état de situation à mettre sous tension. Puis ça vient avec des protocoles déjà faits, là, qui sont aussi attachés avec nos structures en sécurité civile, mais aussi au niveau clinique. Donc, règle générale, les codes orange, vu que ça peut signaler des polytraumatisés nombreux, bien, c'est l'urgence, le bloc opératoire, le laboratoire, toutes les équipes cliniques qui se mettent en tension là, pour être en mesure d'accueillir ces personnes.
Exemple, avec un événement qui s'est produit comme hier aux alentours de 15 heures, Le fameux changement de quart de travail de 16 heures, je ne sais pas si c'est à cette heure-là dans les hôpitaux, mais j'imagine que tous les gens sont demeurés à l'hôpital d'Amqui, mobilisés en attendant justement l'arrivée des personnes blessées.
Oui, effectivement, puis je vous dirais que la beauté de la chose dans notre région, c'est que souvent les gens, quand ils entendent parler de ces éléments-là qui sont mis en alerte, il y a des gens qui sont même pas au travail, des fois qui vont se présenter pour venir donner un coup de main, parce qu'on sait que ces événements-là emmènent vraiment une pointe d'activité importante. Puis particulièrement dans les petits milieux, c'est grâce à cette solidarité-là là, qu'on réussit à rendre les services de façon optimale. Là. Puis les équipes ont super bien travaillé hier.
Dernière question à ce sujet-là, M. Carvalho, vous l'avez mentionné, mais il y a du travail sur le terrain qui va se faire probablement aujourd'hui de l'aide psychosociale pour la communauté d'Amqui, parce que je lisais que, bon, c'est le retour à l'école, donc probablement qu'on va vouloir également accompagner les jeunes qui ont peut-être subi des traumatismes, qui connaissent peut-être justement des personnes qui ont été impliquées dans cet accident-là.
Oui, nos services psychosociaux sont vraiment impliqués. On a aussi rehaussé un peu nos structures de soutien au 811 là, pour l'option 2, pour être en mesure, si jamais les gens appellent, de répondre rapidement. Puis évidemment, on va être en contact avec les gens sur le terrain si jamais il y avait des interventions ou s'il y avait des situations qui nécessitaient vraiment qu'on vienne supporter ces personnes-là. On était entre guillemets chanceux dans notre malchance, dans le sens où il n'y a pas eu de groupe ciblé comme tel, mais en même temps, il y a eu des gens vraiment touchés. Puis ça se peut que dans la communauté, dans les petits milieux, il y a des gens qui ont besoin de support aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va encore avoir nos équipes sur le terrain là pour pour faire le suivi des événements d'hier, s'assurer que tout le monde va bien.
Oui. Monsieur Carvalho, bon changement de sujet. À la base, on devait parler de la situation dans les urgences. Il y a l'Institut économique de Montréal qui a remis son rapport récemment où on apprend que la situation au Bas-Saint-Laurent, si on se compare avec les autres régions du Québec, disons que ça va bien. Le temps d'attente, on dit que c'est 3h06 en moyenne pour les établissements du Bas-Saint-Laurent. Donc, si on regarde ça froidement, si on regarde la grosse photo, on se doit de se compter chanceux au Bas-Saint-Laurent si on se compare avec ce qui se fait ailleurs au Québec.
C'est sûr que quand on se compare avec ailleurs au Québec, actuellement, on se distingue positivement. Puis ça, on en est content. Vous savez, déjà dans les années passées, on avait des durées moyennes de séjour à l'urgence. Là, ils ont pris la médiane, mais notre durée moyenne sur civière à l'urgence était déjà bonne et se démarquait très bien au niveau national. Puis je voudrais que là-dessus, on est bien. On sait, c'est le fruit, ça, du travail des équipes, tant à l'urgence que dans l'hôpital. Mais aussi en première ligne, quand on parle du guichet accès pertinence qui permet d'orienter les gens ailleurs qu'à l'urgence pour certains besoins, ça vient donner un peu d'air. On sait aussi que les GMF ont pris en charge plus de patients associés pour être en mesure justement de leur donner une porte d'entrée différente pour pas que les gens aient par défaut à aller à l'urgence. Donc, vu qu'on a quand même eu la chance d'innover à ce niveau-là pour le CAP, ça nous donne probablement un certain avantage par-dessus la culture qu'il y avait au niveau de la région. Par contre, quand on regarde ça aussi, on voit qu'il reste des pistes d'amélioration. Là, on voit quand même qu'il y a eu un léger allongement du délai quand même au fil des ans qui vient avec l'engorgement qu'on a vu à l'hôpital, un peu en raison de la COVID, mais aussi à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Ça, on voit le chiffre, ça paraît bien au niveau national, mais ça veut pas dire que les gens ont pas besoin de soutien sur le terrain, donc on est quand même en train de travailler là-dessus en continu, mais pour l'instant, effectivement, quand on se compare avec d'autres endroits au Québec, on se considère quand même chanceux, puis on est fiers du travail que nos équipes font.
Selon votre expertise, là, on parle de 3h06 d'attente moyenne au Bas-Saint-Laurent. Jusqu'où on pourrait se rendre, selon vous? T'sais, parce qu'on s'entend pour dire que ça n'arrivera jamais, le temps d'attente zéro, là, ça peut pas arriver. Il va falloir toujours patienter un peu à l'urgence avant d'avoir accès à un médecin. Mais selon vous, là, dans un monde idéal, on pourrait se rendre jusqu'à où?
En fait, c'est que là, l'Institut économique a pris un délai qu'on appelle la médiane. Puis normalement, on est habitué à échanger avec vous sur des durées moyennes de séjour, pour dire de quoi. Ouais. Donc, la médiane permet quand même de voir le 50e patient sur 100 va être vu en combien de temps, ce qui est un bon indicateur. Comme vous disiez, le temps zéro n'existe pas. Je vous dirais que la cible de médiane pour garder quelqu'un à l'urgence, c'est que ça peut dépendre du profil d'usager qui vient dans l'urgence. Mais si on prend les civières, pour dire quelque chose, là, où là, notre cible est à 7 heures de durée moyenne sur civière, ben on sait qu'en bas de 6 heures, quand un usager a besoin d'être sur civière, c'est plus ou moins pertinent d'aller beaucoup plus en bas que ça, parce qu'à un moment donné, ça prend un minimum pour faire l'évaluation clinique, ben oui, bien orienter l'usager, soit vers l'étage, ou vers la maison, ou vers ailleurs. Et y a même un moment où si c'est trop court, ça peut aussi démontrer qu'on tourne les coins ronds. Par contre, sur un délai comme 3h06, c'est pas quelque chose qui affecte la qualité des soins. Puis probablement, vous voyez, avant, on avait quand même des bonnes performances, puis on était autour de 2h40, puis il y avait place à amélioration. Fait que sans dire qu'il existe un chiffre absolu, on pourrait dire qu'on pourrait être à quelque part entre 2h puis 2h30 de médiane, puis ça pourrait être jouable. Mais pour l'instant, à 3h06, ce qu'on veut vraiment, c'est venir soutenir les équipes, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer encore à l'urgence, puis surtout gérer les points d'activité. Vous avez sans doute entendu parler parfois de débordement et tout ça. Puis je pense que c'est dans ces moments-là où il faut être capable de bien orienter la clientèle puis d'essayer de désengorger l'hôpital.
Est-ce que vous recevez des appels de vos collègues qui vous demandent des trucs pour améliorer leur sort dans leur région respective?
Oui, oui, c'est arrivé. Puis on a toujours quand même été collaborateurs là-dessus. On a eu la chance avec certaines régions voisines de pouvoir échanger avec les gens. Il y a des gens qui sont venus sur place voir comment on fonctionnait. Puis parfois, il y a du partage de contenu ou de documents ou de stratégies qui sont faites dans des réunions plus nationales. Mais oui, c'est arrivé. Puis surtout sur la base de comment on s'est organisé, parce que par ailleurs, on est quand même, je vous dirais, avantagé par le fait qu'on a plusieurs urgences sur le territoire. Mais quand même, il y a une organisation de soins, il y a quelque chose qui s'est fait au fil du temps dans la culture qui mène aux résultats qu'on a aujourd'hui. Ouais.
Monsieur Carvalho, avant de vous laisser aller, peut-être une petite question concernant la maison des aînés. On a procédé à Rivière-du-Loup, on a procédé au déménagement récemment. Est-ce que le déménagement, est-ce que la maison des aînés est pas mal remplie à pleine capacité? Il y a encore du travail à faire de ce côté-là?
Ben, en fait, pour l'instant, on a ouvert les 6 premières maisonnées pour 72 lits. Lors de l'ouverture, il y a eu 65 usagers transférés. Donc, déjà, dans ces lits-là, il en reste quelques-uns qui étaient vacants, qui vont se remplir. Puis, ce qu'on va faire d'ici l'automne prochain, c'est d'ouvrir... les maisons alternatives devraient ouvrir ce printemps-ci, donc pour les personnes handicapées, ouais. Plus jeunes, mais handicapées qui ont besoin de services, ça devrait ouvrir au printemps. Puis les deux dernières maisonnées vont ouvrir cet automne, de telle sorte qu'on devrait être en mesure d'aller atteindre notre capacité de 120 lits pendant l'automne prochain. Ouais. Donc oui, il reste encore des gens à admettre, puis il reste des choses à faire. Mais par rapport à l'ouverture, l'objectif qu'on s'était donné de 6 maisonnées, ça c'est opérationnel, puis... je pense que les gens s'intègrent bien. On a des bons commentaires de l'ouverture qui a eu lieu au courant des dernières.
Donc ça veut dire que présentement, dans les locaux de l'hôpital Saint-Joseph, à part des locaux peut-être administratifs, il ne se passe plus rien là.
Pour l'instant, non. C'est sûr que au niveau de cette bâtisse-là, on est en réflexion. Ouais. Comme vous saviez, il y avait quand même des usagers dedans tout juste quelques semaines. La bâtisse comme telle est un peu vieillissante, mais... Dépendamment des besoins qu'on pourrait avoir de façon transitoire, on va voir qu'est-ce qu'on peut considérer comme option. Mais pour l'instant, l'objectif à plus long terme, c'est probablement être de fermer complètement Saint-Joseph.
Est-ce que vous pourriez être tenté, puis on extrapole, mais est-ce que cette bâtisse-là va demeurer la propriété du CI3S? Est-ce qu'éventuellement on pourrait vendre cette bâtisse-là? Est-ce qu'il y a un plan de match qui a été établi sur un échéancier avant de prendre une décision?
Ben, pour l'instant, le plan de match final n'est pas établi. Ouais. Je vous dirais que pour prendre la décision par rapport à la bâtisse, il faut aussi qu'on tienne compte de certains autres travaux qu'on doit faire dans d'autres de nos bâtisses dans la région de Rivière-du-Loup. Puis par la suite, on va être en mesure de voir qu'est-ce qu'on fait à plus long terme. Mais les premières analyses qu'on a faites au travers de tout ça démontrent quand même que la bâtisse ayant un certain âge, de la maintenir pour des fins cliniques à très long terme, ça pourrait être très coûteux. Donc, il va falloir qu'on y réfléchisse.
Monsieur Carvalho, merci beaucoup de votre temps ce matin.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée, bye-bye. Donc, Jean-Christophe Carvalho qui était là, PDG du CI3S du Bas-Saint-Laurent. On a abordé, bien sûr, le sujet d'Amqui. Vous l'avez entendu, il y a un protocole qui s'est mis en place dès que l'événement s'est produit. Il y a un code orange qui a été déclenché. L'hôpital d'Amqui qui a accueilli, bien sûr, les personnes blessées. On a fait des évaluations et par la suite, il y a bien des gens qui ont été redirigés vers des établissements de santé à Québec et à Montréal parce qu'on parlait de cas lourds, de blessures graves. Il y a des avions, vous l'avez entendu, qui ont été mobilisés à partir de Mont-Joli pour transporter ces gens-là vers les grands centres pour se faire soigner convenablement, mais du côté d'Amqui, disons que ça a bougé pas mal et ça va continuer de bouger, comme vous l'avez entendu. Il y a de l'aide qui sera accordée aux gens là-bas parce que c'est une petite communauté, les gens se connaissent. Puis j'ai une bonne pensée ce matin, en passant, pour les premiers répondants, pour les services d'urgence, pour les ambulanciers, pour les policiers. Tu sais, une ville de 6000 de population, tout le monde se connaît, donc tu arrives là. Peut-être qu'il y a des gens, les premiers intervenants, les premiers répondants, ceux qui étaient à l'hôpital à ce moment-là pour accueillir les blessés. Probablement qu'il y a eu des cas où on s'est dit « Hey, je connais cette personne-là. Ah, je connais elle. » Donc, tu sais, sur le coup, tu as un travail à faire, tu le fais, mais par la suite, c'est à ce moment-là que parfois tu as besoin d'aide. Hein? C'est à ce moment-là que parfois, ça peut être plus difficile. C'est le lendemain, c'est le surlendemain, c'est 2-3 jours après, c'est une semaine après. Donc, c'est pour ça que le CI3S va mobiliser, bien sûr, des services d'aide pour tous ces gens-là qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette tragédie-là. Par la suite, on a parlé, bien sûr, des séjours à l'urgence. Vous l'avez entendu, il y a encore place à l'amélioration. Mais si on se compare ailleurs au Québec, disons qu'au Bas-Saint-Laurent, on fait belle figure présentement. Et en terminant, vous vous avez entendu les commentaires de M. Carvalho concernant la maison des aînés. Jusqu'à maintenant, la situation se porte bien. Les maisonnées, c'est de cette façon-là qu'on appelle ça, qu'on voulait être habité à ce stade-ci, ben, sont déjà habités. Il y a encore du travail. Ça va être à l'automne prochain que la maison des aînés va être remplie, on va dire, à pleine capacité. Mais on est toujours aussi en réflexion à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'hôpital Saint-Joseph, avec cette immense bâtisse qui a besoin d'amour. Vous l'avez entendu, il y a des évaluations à faire. Pour l'instant, ça demeure une propriété du CI3S, mais l'avenir, il y a encore un point d'interrogation à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette bâtisse.